Il faut juste rappeler que ce Sefer, il n'est pas comme les autres. Dans les quatre premiers Sfarim, disons en tout cas les trois, parce que le Sefer Bereshit c'est un peu différent, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, mais en fait c'est Hachem qui parle par la bouche de Moshe Rabbeinu. Donc ce qu'on entend, c'est directement la parole divine. Donc Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, mais c'est lui qui parle. Bien sûr, il est inspiré, comme le seront par la suite les Nevi'im, etc. Et plus qu'eux encore. Mais ça n'est plus directement la parole d'Hachem. Et le Sefer Dvarim, il est aussi appelé Mishnei Torah, qui voudrait, dans un des sens, est que c'est une deuxième copie, c'est-à-dire une répétition de la Torah. Mais on sait bien que ce n'est pas vraiment une répétition au sens où il y a plein de mitzvot qui ne sont pas dans les quatre premiers Sfarim, qui sont dans le Sefer Bamidbar, donc dans le Sefer Dvarim, je crois que je vais y arriver. Donc dans le Sefer Dvarim, c'est un Sefer particulier, c'est un Sefer qui est présenté comme, d'une certaine manière, une forme de testament de Moshe Rabbeinu. Plus exactement, c'est ce que Moshe Rabbeinu va dire au Bnei Israël au moment où ils vont entrer en Eretz Israël. Ça va même plus loin, puisque les dernières parshiot de Netzavim, Vayelech et Azinu sont les parshiot qui parlent même du galout, de l'exil en fait, de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est les provisions de route que nous a donné Moshe Rabbeinu. Pasuk He dit Be'ever Yarden Be'eretz Moab Hoil Moshe Be'er et la Torah Azot Lemo. À cet endroit-là, dans les Be'er Yarden, c'est-à-dire parce que Moshe Rabbeinu n'a pas franchi le Jourdain, donc on est, si vous voulez, en Cisjordanie, dans les terres de Moab, Moshe Rabbeinu a accepté, ou il a bien voulu, expliquer le Va'er, clarifier. C'est aussi un lachon de Be'er, ça veut dire un puits. C'est comme si il a continué d'être un puits de Torah, mais au sens des explications de ce qui avait déjà été dit, les morts, et en parlant. Maintenant, avant d'arriver à ce passage-là, on dit, voilà, elle est Advarim Asher Diber Moshe, elle Kol Israël. Ce sont les paroles que Moshe Rabbeinu a dites à tout Israël. Vous voyez, c'est Asher diber Moshe. C'est-à-dire Moshe a parlé dur. C'est pas un vayomer Moshe. C'est diber Moshe. Moshe Rabbeinu parle, mais il parle durement, d'une certaine manière, au Bnei Israël. Et il parle à tout Israël. Il fallait que tout le monde soit là. On va voir tout de suite pourquoi. Et puis on nous dit que il a parlé vers Yarden. Ça on comprend, il n'a jamais franchi le Jourdain, comme je vous ai dit. Bamidbar, Barava, Bolsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vechatserot, Dizahav. Rashi. Elle est à Dvarim, dit Rashi Ramen à Sifri. Le fichen divrei tochachot. Qu'est-ce que Rashi veut dire ici? C'est des Dvarim, c'est un dibour, c'est des paroles dures. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles de remontrance, de tochachot. והנה מלאכן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. Alors, la liste se présente comme une liste de lieux. Barava, Bolsouf. Mais il y a quelques-uns de ces lieux-là dont on n'a jamais entendu parler. C'est Rabbi Yochanan qui dit, regardez, on a cherché dans toute la Torah, on n'a pas trouvé Lavan, on n'a pas trouvé Tophel, etc. Et donc la liste, d'autant qu'on vient de la faire cette liste, n'est-ce pas? Ce qu'on a lu la semaine dernière, c'est les Massaot. Là-bas, on a déjà découvert toutes sortes de lieux, toutes sortes d'endroits où les Bnei Israël ont passé dans les Massaot. Mais dans cette liste de Massaot, qui est a priori complète, ben, certains de ces lieux-là ne figurent pas. Par conséquent, on ne peut pas lire qu'il s'agit ici de lieux. Rashi dit Bamidbar. Lo Bamidbar ayu. Commentaire de Rashi sur Bamidbar. Ils n'étaient pas dans le désert. Alors, c'est quoi? Pourquoi tu dis Bamidbar? Tu dis tout de suite, mais non, ils n'étaient pas dans le Midbar. Ils étaient Arvot Moab. Alors pourquoi ça s'appelle Midbar, puisque c'est pas le Midbar, c'est pas le désert? Ela bishvil ma sheichisu ba Midbar sheamru mi iten muteinu ba Midbar, justement. Et par conséquent, ce mot de ba Midbar, Moshe Rabbeinu il est be'ever Yarden, et il leur dit: Je vous rappelle que vous avez mis Hachem en colère quand vous étiez dans le désert. Vous avez dit, on préférerait mourir dans le désert, etc. Ba'arava, bishvil ha'arava, shechatu be'baal peor, be'shitim, be'arvot moav. Ça fait référence à la faute des Bnei Israël avec Baal Peor à l'époque des Shittim, donc dans l'histoire de Pinchas, enfin de la faute de Zimri. Molsouf, c'est pas non plus un lieu, on pourrait penser que c'est en face de Yamsouf, de la mer, mais non, c'est pas ça, là non plus. Alche, Imru, Bayam, Miru Bayam, Yamsouf, Bevoam, la Yamsouf, ils ont dit, Ameblien Kvarim be Mitzrayim. Il n'y a pas de tombe en Égypte pour que tu nous amènes mourir ici dans la mer. Vechen ben Asam, mitoch Hayam, même quand ils sont sortis de l'eau, Vayamru al Yamsouf, Beyamsouf. Beyamsouf. C'est marqué dans le Masechet Eret. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. C'est là que dit Rabbi Yochanan. Il dit, Chazarnu al kol amikra. On a révisé tous les psukim. Mais on a trouvé l'omatsinu makom sheshmo Tofel Velavan. Il n'y a pas d'endroit qui s'appelle Tofel ni d'endroit qui s'appelle Laban. Et la ochichan al advarim shetaflu al aman sheu lavan sheamru nafshinu katzab alechem aklokel val ma sheasu bemidbar paran al yedei amraglim. Donc finalement on a compris. Tous ces endroits-là ne sont pas des lieux en tant que tels où Moshe Rabbeinu se serait tenu pour leur parler. C'est que Moshe Rabbeinu est en train de leur faire des tochachot, des remontrances, en leur rappelant tous ces endroits où ils se sont révoltés contre Hachem. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces remontrances que Moshe Rabbeinu nous fait là, ce qui nous frappe évidemment, c'est que elles ne sont pas faites ouvertement. Elles sont faites de remez. Elles sont faites de façon allusive. Ce que Rashi avait dit, Satam et advarim veiskiram de remez. Mipne kvodal shel Israël. Donc ça c'est une loi, une halakha, dans la tochacha. Une tochacha doit être faite en respectant celui auquel on fait la tochacha. On ne peut pas lui mettre la tête dans ses bêtises directement. On va lui dire, lui va comprendre, s'il veut faire comme s'il ne comprenait pas, on ne peut rien y faire. C'est assez étonnant, parce qu'a priori, la tochacha s'est faite pour qu'il fasse tchouva. Oui. Il reste encore libre de faire ou de ne pas faire tchouva. Vous ne voulez pas comprendre ce que je vous dis? Effectivement, vous pouvez faire comme si vous ne comprenez pas. Donc, la liste ici de que les Bnei Israël ont fait de mal, il y a le Hegel, il y a toutes les fautes. Et sur ces deux, ce que Rabbi Yochanan a dit, que c'est Tophel et Lavan, ça parle de la manne. Est-ce que vous vous souvenez que les Bnei Israël, quand ils ont à un moment donné, ils ont dit on a marre de la manne. Et ils ont mal parlé de la manne. Qu'est-ce qu'ils ont dit de la manne? C'était une nourriture extraordinaire, n'est-ce pas? On mangeait, il n'y avait aucun déchet, c'était parfait, ça avait les goûts qu'on voulait. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est alechem aklokel. Klokel, ça s'écrit kouf lamet. C'est kal. C'est léger. Super léger, puisqu'on a répété le cal-cal. Super léger. Pourquoi, en quoi ça les dérange? On ne se sent pas vraiment exister quand on n'a pas le ventre plein. Quand on mangeait la manne, on était parfaitement nourri. Mais il n'y avait pas ce sentiment d'avoir la peau du ventre bien tendue. on ne se sent pas vraiment exister. Et c'est ça qu'ils ont dit, on a marre. On veut se sentir... Et donc ils ont dit ce mal sur la... On dit du mal, donc sur la manne. Et ça, c'est une faute. Parce que c'est une fleur qu'Hachem leur a faite, une nourriture de malachim, quoi. Une nourriture extraordinaire. Et eux l'ont repoussé. On en a marre, on veut pas ça. C'est une faute, ça veut dire que il doit y avoir un respect de la nourriture. On ne peut pas dire n'importe quoi sur la nourriture. Et là, ils sont punis pour ça, c'est une torara. C'est un peu étonnant que ce soit mis sur le même plan que le Chet HaEgel, par exemple, dans la liste. Il y avait le Chet HaEgel. Là aussi, c'est sur le même plan. Alors c'est possible, il faut vous dire, toutes les fautes ne sont pas exactement toutes sur le même plan. C'est pas vrai, c'est pas parce qu'elles sont citées en même temps. Mais malgré tout, ça vient dire quand même l'importance de cette façon qu'ils avaient de s'exprimer contre le pain du ciel qu'Hachem leur a envoyé. Donc on est là à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, évidemment. Et il commence à B.R. Il va expliquer la Torah. C'est une drôle de chose. Qu'est-ce que ça veut dire B.R.? Est-ce qu'on vient nous dire ici que Moshe Rabbeinu a bien voulu expliquer? Qu'est-ce qu'ils avaient à faire, les Bnei Israël, que ce soit en 70 langues? Ils en connaissaient une, deux, peut-être, je ne sais pas, ils connaissaient. Donc, s'il y avait un problème, ils devaient leur expliquer en égyptien, s'ils parlaient l'égyptien, disons qu'ils parlaient ces données en Lashon HaKodesh, qu'est-ce qu'il fallait leur donner encore? Une ou deux, je ne sais pas, dialectes locaux, mais qu'est-ce que... On va leur expliquer en russe et en, je ne sais pas, en persan. Quel intérêt? C'est pourquoi c'est quand les Bnei Israël sont... Moshe Rabbeinu aurait donc traduit la Torah, il l'a expliqué en 70 langues, il aurait donc traduite pour qui, évidemment? C'est fait pour qui, ça? Marquez que quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, quand ils ont franchi le Jourdain, ils ont écrit sur les pierres du Jourdain, ils ont écrit la Torah. Là-bas, la Gemara, elle parle du fait que ce qu'ils avaient fait, c'est que c'était écrit sur les pierres, de telle sorte que les goyim, le cas échéant, pouvaient venir, ils allaient mettre un support, un tissu, sur ces pierres, donc l'écriture allait s'imprimer sur le tissu, ils allaient prendre ce tissu comme pour imprimer chez eux, donc, parce qu'il faut passer de l'envers, ça va s'écrire à l'envers, mais après quand on le remet, bon. Donc ça voudrait dire que sur cette pierre on a marqué les choses dans des langues qui soient accessibles au mota olam, aux différents peuples. On On peut aussi penser que si on veut traduire dans toutes les langues, ça veut dire qu'on va devoir obligatoirement faire apparaître des sens, enfin une grande richesse dans ces mots, parce qu'il n'y a pas dans toutes les langues le terme exact. Donc il va falloir ou bien utiliser des périphrases, ou bien il va falloir expliquer en mettant l'accent de telle sorte que chacun des peuples comprenne bien, à sa manière, ce que la Torah veut des hommes. Et donc c'est ça l'explication, ça veut dire c'est une explication totale que Moshe Rabbeinu aura donnée. Donc il aura donné toutes les... toute une forme d'hypertexte, si vous voulez, à partir du texte de la Torah, en le mettant dans toutes les langues, en faisant apparaître des choses qui peut-être dans la Shana Kodesh n'apparaissaient pas vraiment, ou pas directement, mais qui apparaissent quand on veut, quand on essaie de traduire, on s'aperçoit que, alors là, il n'y a pas le terme exact dont on est obligé d'expliquer, c'est donc une explication de la Torah. Oui, alors en vérité, il faut croire que ça a été mis à disposition des peuples, mais les peuples ne l'ont pas pris. C'est pas, peut-être, en fait, a priori, s'il a expliqué ça, il a expliqué au Bnei Israël, peut-être que la référence, quand on dit les Shivim Lechonot, ça veut dire qu'il a expliqué le texte en prenant en compte tout ce qu'il faudra dire pour pouvoir le dire dans une autre langue. Et peut-être qu'il ne leur a parlé à eux. Quand la Shana Kodesh, au Bnei Israël, il ne venait pas leur parler en turkmène, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'accord, en turc, je ne sais pas, ça n'avait pas de sens. Mais si on veut le traduire dans ces langues-là, on est obligé de dire les choses explicitement, et donc c'est pour ça que, et c'est ça qu'il a fait, que Moshe Rabbeinu a fait, de telle sorte que. Voilà, on avait une explication qui pouvait être redite dans n'importe quelle langue. Maintenant, les Bnei Israël, effectivement, qui ont été obligés de traduire en grec, bon, ça, c'était autre chose. C'était pas pour faire vraiment comprendre aux Grecs. On savait ce que les Grecs allaient en faire. Parce que les Grecs ont fait ça, c'est bon, là, on connaît le texte, on le connaît. Bon, il n'y a rien de spécial dans ce texte. Quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas si vous l'avez reçu aussi, Rav Yitzhak Yosef, il raconte qu'il était en Russie, là, et qu'il a été invité chez Poutine. On lui dit, je pensais que, voilà, ça serait quelques poignées de main et une série de photos. Et que Poutine l'a gardé 1h15. Et avec Poutine, il aime bien parler, alors il lui a parlé et il a commencé à lui expliquer la civilisation égyptienne, les Grecs, les Romains, etc. Et comme il dit, je ne comprenais pas pourquoi il était en train de me faire un cours d'histoire, je n'étais pas venu pour ça. Mais bon, je ne sais pas, c'était Poutine. Bon. Et alors après, il lui a demandé, mais vous, toutes ces civilisations, elles ont toutes disparu. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour survivre? Comment ça se fait que vous êtes encore là? Alors, le Rav, il raconte, je voulais lui expliquer les valeurs, etc. Mais non, c'est moi qui vais vous expliquer pourquoi. Donc, Poutine l'a dit, si vous êtes là, c'est parce que vous avez écouté vos rabbanim qui vous ont expliqué la Torah. Fin de ce qu'on m'a reçu. Poutine Dixit. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Bon. Le Rav, il était un peu surpris quand même. Il a l'air, il raconte que.
Un Un message pour, subliminal pour Yael Lapid.
Pardon?
Un message subliminal pour Yael Lapid.
Je sais pas, voyons ça. Ben, c'est souvent une. On peut dire que c'est comme ça que la Russie se met les élections israéliennes, mais bon. Il a expliqué la Torah à tout le monde, tout Israël. Bon, je ne vais pas répéter que pourquoi est-ce qu'il fallait que tout le monde soit là, pour que personne ne puisse dire et moi il ne m'a pas fait de reproche. Nous, non, vous êtes tous là, les reproches, les remontrances, elles sont pour tout le monde. Et alors quand Moshe Rabbeinu a expliqué, alors Chazal disent, expliquer, ça voulait dire que tout le monde devait parfaitement comprendre la Torah. Donc Moshe Rabbeinu a demandé au Bnei Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec un verset, avec une paracha, quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose? Eh bien, venez demander maintenant. Quand je suis là, parce que peut-être après moi, hein, on ne pourra pas interroger de la même manière. Aucun prophète ne pourra répondre comme moi je peux répondre. Et en particulier, il a convoqué, vous savez bien, il a convoqué Yoshua. Et il lui a dit, pose toutes les questions que tu as. Je vais disparaître. C'est étonnant, enfin, Yoshua lui a répondu, dit l'Agmara, tu as écrit toi-même dans la Torah que j'ai jamais quitté le Beit HaMidrash. Je t'ai jamais quitté. Donc, je n'ai pas de question, j'étais tout le temps là. Alors, il y a plusieurs versions, mais bon, on entend tout de suite, on connaît un peu l'histoire. Que si Yoshua, il a dit ça, il allait le prendre sur la figure. C'est difficile de comprendre comment il ne s'est pas imaginé qu'on ne peut pas répondre comme ça. C'est difficile de comprendre pourquoi Yoshua n'a pas compris que si Moshe te pose la question, ne réponds pas, je sais tout. Alors, il y a plusieurs versions sur le combien de choses ont été oubliées au moment de la mort de Moshe. Il y a une version qui dit qu'il y avait 3000 halakhot qui ont été oubliées et 1700 kal vachomer, 1700 règles d'application de règles herméneutiques. Et il y a, alors Yoshua a dit ben, je ne sais pas. Il ne savait plus. Alors, les gens ont dit, va demander. Et quand il est allé demander, Hachem a dit, c'est fini, la Torah, on ne peut plus demander. La Torah, elle est sur la terre. Alors, vous remarquez qu'ils ont voulu lapider complètement Yoshua. Alors, Yoshua, il a prié, Hachem, et Hachem a, comment qu'il a inspiré, quelqu'un qui s'appelle Otniel Ben Kenaz, ce Kenaz, c'est un frère de Kalev. Et lui, la Gemara dit, Bepil Poulo, il a retrouvé ses halakhot. Par sa puissance de raisonnement, Il a trouvé les choses. Il n'a pas eu de Ruach HaKodesh, c'est pas qu'il était inspiré que, comme s'il était Moshe Rabbeinu. D'accord ? C'est un travail rationnel, en quelque sorte, qu'il a fait. Avec les règles d'herméneutique, etc. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire, si on peut retrouver des choses de la Torah à partir d'une partie de la Torah, ça veut dire que, disons, dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que la Torah, ce n'est pas un système minimal. C'est-à-dire qu'il y a de la redondance, ça veut dire, dans la Torah. Parce que s'il n'y avait pas de redondance, on ne pourrait pas, à partir d'une partie de la Torah, trouver des choses qui ne sont pas de cette partie-là. Parce que c'était minimal. Donc c'est très important, ça veut dire que ça fait partie de la Torah qu'il y ait des recouvrements, si vous voulez, des choses qui sont dites, qu'on peut retrouver de plusieurs manières. Et on trouve ici de nouveau quelque chose dont on avait déjà parlé. On sait que chacun d'entre nous a une part dans la Torah. On demande « Ten chelkeinu betoratecha » « Donne-nous notre part dans ta Torah ». Ça veut dire que chacun d'entre nous est susceptible de dévoiler une part de la Torah. Alors, la question qui se pose, c'est si chacun a une part dans la Torah, et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'utilisent pas, qui ne travaillent pas la Torah? Alors, cette part-là, on ne l'aura pas, alors. C'est vrai que chacun a une part bien précise, et que l'autre n'a pas cette part. Comment on peut trouver? Parce qu'en réalité, la part de chacun est bien précise, mais des parties de cette part sont recouvertes par des parties qui viennent de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre que si certains sont défaillants, en quelque sorte. Néanmoins, ce que eux auraient pu produire, de la façon la plus évidente, peut être reproduit par plusieurs personnes qui vont recouvrir, en quelque sorte, ce que lui était capable de faire. C'est la même idée, c'est cette redondance, en quelque sorte, dans le texte de la Torah. Alors, c'est à la fois un texte où chaque mot est fondamental, que chaque mot est un véritable texte, puisqu'on voit, bon, il faut bien comprendre que nous on explique la Torah de toutes sortes de façons. Par exemple, pour donner un exemple un peu trivial, on explique la Torah avec des gématriotes. Ça veut dire qu'on considère que si on a un certain mot dans la Torah, qui a une valeur numérique, d'une certaine manière, il est lié avec tous les autres mots qui ont cette même valeur numérique. Et si vous voulez donner un exemple qui est très intéressant en soi, on a vu dans d'autres théories, on a vu que par exemple la valeur numérique du Nahash, du serpent de la Genèse, donc, de Bereshit, la valeur numérique du Nahash, du serpent, c'est la même valeur numérique que le Mashiach. Et donc ça veut dire, le serpent de Sefer Bereshit, le serpent qui a attaqué Chava et Adam Arishon, quelque part, il a un lien très fort avec le Mashiach. Il faut savoir exactement ce qu'il en est. Il y a une Gemara qui, juste pour que vous ayez une idée, qui parle du temps de gestation des serpents. C'est une drôle de question parce que des serpents, il y en a de toutes sortes. Bon, il y en a qui ne sont pas tous, il y en a qui sont ovipares, il y a ce qu'on veut. Donc serpent, ça veut quasiment rien dire. C'est très large. Mais en fait, après on va parler d'un serpent particulier qui est une espèce de vipère. C'est un serpent qui a Il a la qualité d'être, d'avoir du poison, parce que très souvent dans la Torah, y compris dans l'affaire du puits dans lequel on a jeté Yosef, le serpent et le scorpion, le Chashiv et l'Akrabim, c'est présenté ensemble. Donc il y a certains Nechashim qui ont ce qu'ont les scorpions, c'est-à-dire ce poison en fait. Donc c'est une vipère capable de tuer par sa morsure. Et la Gemara, elle discute du temps de gestation, et c'est un sujet très 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 intéressant et très compliqué. Parce qu'il y a une machloquette entre les sages d'Athènes et les Bnei Israël, les sages des Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils disent que c'est 7 ans, le temps de gestation. Et les Grecs, voilà, ils disent c'est 3 ans. Il y a la Gemara, elle apporte une situation où c'est un Romain, un gouverneur romain qui va les confronter les uns avec les autres. Bon, alors c'est très compliqué, on ne va pas faire ça maintenant, mais et ça, si on comprend que Nahash il a la même gematria que Mashiach, alors le temps de gestation du serpent, c'est le temps de gestation du Mashiach. Et donc la question c'est, il y a maintenant la différence entre 7 et 3, c'est que si on dit que le temps de gestation est de 7 ans, 7 c'est l'ordre du monde, bon, c'est la semaine, mais c'est aussi les années de la Shemitah, etc. Donc quelque part, si on a besoin de 7 ans pour fabriquer quelque chose, cette chose-là, elle n'appartient pas au monde, puisqu'il faut tout un monde, le laps de temps de tout un monde pour pouvoir le produire. Donc la question elle est, est-ce que le Mashiach il est, si vous voulez, homogène au monde? Ça, c'est ce que pensent les Grecs, puisqu'ils disent c'est 3 ans, ils sont donc dans les 7 ans, mais nous on dit que non, que le Mashiach il n'est pas homogène. C'est la période de Mashiach, d'après ça, c'est une période qui est radicalement différente. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens d'essayer de s'imaginer ce que sera la période du Mashiach. Parce que c'est radicalement différent par définition. Si ça met 7 ans pour se produire, ce qu'on appelle le Heblé Mashiach, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement du Mashiach, ça veut dire que la chose, que le Mashiach n'est pas quelque chose qui est dans notre monde, point de vue-là, parce que pour le produire, il faut 7 ans, il faut tout un cycle de monde, tout un monde pour produire un autre monde, un nouveau monde. C'est juste pour vous dire, tout ça, Moshe Rabbeinu l'a expliqué au Bnei Israël. Bon, c'est basé sur quoi? Sur une gématria. Bon, c'est une gématria, la Gemara, elle ne parle pas du tout de cette histoire, elle parle de gestation d'un serpent ou un bar. Seulement quand on se met à expliquer les choses, quand il va regarder après le Gaon de Vilna, le Marchaud, le Maral, etc., on s'aperçoit que la Gemara n'est pas en train de s'occuper de savoir ce qu'il en est de la gestation du serpent. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est pas ça la vocation des Chachamim, ils ne sont pas. On n'est pas des charmeurs de serpents, et donc. Mais par contre, de cette manière-là, on touche à un problème fondamental, mais qui est présenté de telle sorte que, et c'est souvent comme ça dans la Gemara, quand les Chachamim voulaient dire quelque chose, mais ils ne voulaient pas que le commun des mortels puisse l'entendre, parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont le dévoyer ou l'utiliser, etc. Alors ils le disent d'une façon remèse, de façon allusive, ou d'une façon compliquée, etc. Il faut aller chercher, il faut ramener plein de d'information, mais les Chachamim comprennent, peuvent comprendre ce qui a été transmis. Le message est passé pour ceux qui sont susceptibles de l'entendre, de comprendre, de ne pas le dévoyer. En fait. Donc on voit que quand Moshe Rabbeinu a bien voulu commencer à expliquer, alors il voulait expliquer, ça veut dire je m'en vais, mais je ne veux pas qu'il reste des choses qui ne soient pas claires. Alors, dans le pasouk, c'est ce que Moshe Rabbeinu leur a dit dans le pasouk Vav, là-bas. Il leur a dit, quand il a commencé à expliquer, il leur a dit Hashem Elokeinu, Diber Eleinu Bechorev, il nous a parlé au Chorev, Chorev c'est le Sinaï. Les morts, en disant, il nous a dit Rav Lachem, Shevet Baharazé. Ça suffit de rester à cet endroit-là. Pnou, ou Seou Lachem, tournez-vous et mettez-vous en marche. Ou Vohu, Hara et Mori, Velkol Shchenav, Baharava, Bahar, Bashpela, Banegev, Bechofayam, Eretzak Nani, Valbanon, Adana, Hagadol, Nehar Purat. Mettez-vous en marche. Ne restez pas. Donc, ça veut dire, Hachem leur dit, donc il faut aller maintenant, il faut aller en direction d'Eretz Israël, mettez-vous en marche. Et puis, il ajoute, regardez, enfin, vois, Natati lifnechem et haaretz, j'ai mis la terre devant vous, en fait, bo urshu et haaretz, venez et héritez de cette terre, Asher nishba Hashem la avotechem, qu'Hashem a juré de donner à vos ancêtres, l'Abraham, l'Itsrak ou l'Yaakov, la tête lahem ou les aram achareem, leur donner à eux et à leur descendance après eux. Donc, il leur dit, maintenant, faut partir. Alors, on fait remarquer que quand il dit Hashem Elokeinu, c'est la première fois que dans la Torah on utilise cette forme. Ma? Alors, qu'est-ce que vous entendez dans Hashem Elokechem? Qu'est-ce que, si c'est tellement nouveau, d'accord, si Moshe Rabbeinu a jugé qu'il fallait tout à coup introduire cette expression-là qu'on retrouve, on va retrouver dans Shema Israël, Hashem Elokeinu. Mais qu'est-ce qu'on entend dans Hashem Elokeinu? Qu'est-ce qu'on entend dans Hashem Elokeinu qu'on n'entend pas dans Hashem tout court, ni dans Elokeinu tout court?
Le Rachamim
et le Din. Oui, mais je crois que l'accent, vous avez raison, mais donc Hashem Elokim, ça aurait marché aussi. Donc ce qu'il y a en plus, c'est le Elokeinu. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si on s'appropriait en quelque sorte Hashem. Une façon de parler, une forme, une relation presque d'intimité avec Hachem. C'est Hachem et c'est notre, c'est Elokeinu, c'est pas seulement Elokim. Alors, c'est un peu rigolo parce que on dit, quand on parle des, vous savez, des deux nouns à l'envers qu'il y avait dans le Sefer Bamidbar. Alors on dit, parce qu'on a voulu séparer les Pouranout, il y avait des situations consécutives à une mauvaise conduite, on n'a pas voulu qu'elles soient trop proches l'une de l'autre, alors on a inséré en quelque sorte cette espèce de parenthèse entre deux nouns. Et une des Pouranout, c'est quoi? C'est que on accuse les Bnei Israël d'être parti du Sinaï comme un gosse qui s'enfuit de l'école. Alors ici on leur dit partez, et d'un autre côté on dit qu'ils sont partis du Sinaï comme un gosse qui s'enfuit de l'école. Ça veut dire qu'ils sont partis du Sinaï parce que si on ne s'en va pas, il va nous donner encore plus de mitzvot. On a déjà 613, c'est pas mal, on s'en va. Alors comment est-ce qu'on peut dire à la fois reproche au Bnei Israël de partir en courant, et là on leur dit alors on est ici, c'est Moshe Rabbeinu qui en parle, c'est Moshe Rabbeinu qui dit ici que j'ai dû vous pousser. Donc, est-ce que c'est ironique, en quelque sorte? C'est une façon de leur dire, Hachem Elokim nous a dit de partir, mais en fait, c'est vous êtes partis en courant. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu introduit le fait qu'il se soit plaint à Hachem. Il a dit je leur ai dit, Vomar Alechem, à ce moment-là, je vous ai dit, Lohal Levadis et Etrem. Moi tout seul, je ne peux pas vous porter. Hachem Elokechem Irba Etrem, Hachem votre Dieu vous a rendu si nombreux. Inchem Ayom que Kochve Hashamaim Larov. Vous êtes aujourd'hui comme les étoiles, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je ne peux pas vous porter. Mais alors, je ne reproche pas que vous soyez, ne le prenez pas mal. Yosef Alechem Kachem Elef Permim. Il va rechetrem kachem d'Iberlachem. Kachem, vous continuez de vous multiplier mille fois, etc. Moi, je ne peux pas vous porter. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire de aussi nombreux que les étoiles du ciel? Rachid demande. Est-ce qu'ils étaient aussi nombreux que les étoiles du ciel? Ils n'étaient jamais que Shishim Ribo. C'était 600 000, je veux dire. C'est tout, c'est pas les étoiles du ciel. Alors qu'est-ce que bien vouloir dire Moshe Rabbeinu quand il dit ça? Alors Rashi dit, Inchem, vous êtes Meshunim. Kayom, Kayamim, Leolam Kechama, Halvana avec Kochavim. C'est-à-dire, vous êtes tellement différents les uns des autres, que tout en n'étant pas aussi nombreux que les étoiles, mais il y a une telle diversité en vous, c'est comme si j'avais affaire à toutes les étoiles, comme si vous étiez aussi nombreux que les étoiles.
Des fois, on utilise aussi la comparaison des grains de sable.
Oui, parce que il y a les deux. C'est Hachem a donné ces deux brachotes à la fois les étoiles et à la fois le sable. Bon, c'est deux images qu'il faut analyser séparément. Et le clan d'Israël, il a ces deux qualités-là. Alors, dans la deuxième montée, c'est, ben, certains commencent un peu avant, et il dit « Echa esal vadi tochachem masachem verivchem » Comment est-ce que je pourrais, moi seul, porter toutes vos votre lourdeur, en quelque sorte. Vous êtes toujours en train d'attaquer l'autre, de... Rachidi, Tochachem, Melamed, Shayu Israël, Tarchanin. Aya Echad Mehem, Roet, Baldino, Tsar Bedin, Omer, Yeshli Edim, Lavi, Yeshli Rayot, Lavi, Osifani Alechem, Dayanim. Vous êtes des pénibles, des procéduriers, il faut dire. C'est quand quelqu'un voit que l'autre va gagner, j'ai encore des témoins, j'ai encore, voilà, il faut encore apporter encore plus vous êtes pénibles. Masachem, Melamed et vos charges, Melamed, chez Ayou, pas très clair ici ce que ça voulait dire, que Moshe Rabbeinu, ils étaient toujours en train d'expliquer, de donner des explications à tout ce que Moshe Rabbeinu faisait. Si Moshe Rabbeinu sortait de chez lui, il disait, qu'est-ce qu'il a Ben Amram à sortir, il n'est pas bien chez lui, il n'est pas bien avec sa femme. Si maintenant il sortait plus tard, alors il disait, « Mara ben Amram, shelo latzet, ma atem svurim, yoshev yoes alechem, et sotraot, vechoshev alechem, marchavot. » Est-ce qu'il n'est pas en train de comploter, enfin de penser comment il pourrait encore nous embêter, nous mettre encore des autres mitzvot, etc. « Verivchem, melamed, shayu, roganim » ça veut dire, il était encore des gens qui se mettent toujours très facilement en colère. Voilà, donc c'est des vrais compliments que Moshe Rabbeinu leur fait ici. Mais je peux pas. Donc c'est ça la diversité, comme les étoiles. C'est-à-dire que le procédurier, casse-pied. Et d'aller chercher la petite bête chez l'autre, etc. Le Netziv, l'Amek Davar, dans son introduction, dans son commentaire de Sefer Dvarim, il ramène la fameuse Gemara qui parle de la destruction du deuxième Beit Hamikdash pour des raisons de Sinat Chinam. Et il dit, il ne faut pas s'imaginer que leur sinat finam, leur haine gratuite, c'était comme chez nous. Ces gens-là, leur haine gratuite, c'était le Shem Shamaim. Tout était le Shem Shamaim. Ça veut dire quoi? Alors il explique les choses de cette manière-là. Il explique que de la même manière qu'il y avait, au moment de la destruction du deuxième Beit Hamikdash, il y avait les sicaires, vous savez, c'était des fanatiques, très pieux, mais qui ne voulaient pas se rendre aux Romains. C'est eux qui ont mis le feu au grenier. Les greniers d'Yerushalayim étaient pleins. Donc, Jérusalem pouvait soutenir un siège très très long. mais ils ont brûlé les réserves pour obliger les gens à faire la guerre. Et on sait que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est celui qui parle de ça, de ce Sinat Hinam, etc., vous savez qu'il est sorti d'Yerushalayim, il s'est fait passer pour mort, sur le conseil de son neveu qui était un des sicaires. Son neveu était un de ses fanatiques. Ici, et son neveu lui a dit, écoute, tu ne peux pas sortir, personne ne peut sortir de Yerushalayim, sauf les morts, parce que comme on n'a pas le droit d'enterrer à Yerushalayim, quelqu'un est mort, ben... Donc il s'est fait passer pour mort. Mais le problème, c'est que les sicaires, ils étaient à la frontière aussi, sortis d'Yerushalayim, et pour être sûr qu'il était vraiment mort, ils voulaient le transpercer. Coup d'épée, de lance, etc. Alors les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils leur ont dit, en face de nous, là, il y a les Romains. Et les Romains, ils vont voir comment vous traitez vos maîtres. Alors ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, eux, ils étaient capables de transpercer, alors qu'on n'a pas le droit, bien sûr. C'est vrai que on a été sauvés par ça, parce que si lui n'était pas sorti, il n'y avait pas de négociation avec Vespasien, et on n'aurait rien eu. Et quand on regarde, effectivement, dans la Gemara, dans les Mishnayot, on voit que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a mis en place toutes les structures pour le clan Israël durant le Galout. C'est lui qui a pensé comment ça sera après, qu'est-ce qu'on va faire. Mais il faut imaginer. On va être Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est la destruction de Beth Amikdash. Très peu de temps après Tisha B'Av, il y a Yom Kippour. Et c'était pour les Bnei Israël la première fois qu'ils allaient faire Yom Kippour sans Beth Amikdash. Comment on fait? Yom Kippour, pour eux, c'était le Kohen Gadol qui faisait le travail. Les Bnei Israël, ils attendaient de voir que la petite languette qui était rouge, elle devienne blanche pour montrer qu'Hachem avait pardonné. Mais ils faisaient rien, les Bnei Israël. Ils attendaient que ça passe. Et quand le Kohen Gadol sortait, alors on chantait Marie Cohen et c'était la fête. Tout à coup, ils sont là. Il n'y a plus de Kohen Gadol. Imaginez ce que c'était. Il a fallu inventer, faire le... Dire au Bnei Israël, ben c'est fini, il n'y a plus quelqu'un qui va faire le job pour vous. On va le faire tout seul. Vous voulez être pardonné, etc. Vous voulez être capara. Il n'y a plus de korbanot. Il faudra faire vos prières, il faudra faire vos vidouilles tout seul. Faites le travail tout seul. Et il n'y a pas que ça. Toute la structure du clan Israël devait être revue de fond en comble. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et c'est lui qui parle de l'attitude des Bnei Israël. Et c'est, il faut comprendre, dit le Netziv, que bien sûr, les gens, ils étaient très pieux. Ces gens-là étaient très pieux. Mais ils étaient sans arrêt en train de regarder chez l'autre. Et regarde, ah, il ne fait pas exactement comme moi je pense qu'il faut faire, etc. Et ça, dit le Netziv, c'était ça, Sinat Hinam. D'accord ? Détester l'autre parce qu'il ne fait pas exactement comme moi. Et lui faire des ennuis. Et tout ça, le Shem Shamayim. Tout ça au nom de la gloire divine. C'est, je veux imposer ma méthode de ma façon à moi de faire les mitzvot. On n'écoute pas l'autre, parce que chacun dit moi j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Eux-mêmes, ces sicaires, ils n'étaient pas tous d'accord, mais ils étaient tous d'accord pour être fanatiques. Mais entre eux, Ça, c'est la haine. La haine n'est pas la petite haine de, comme chez les enfants, au jardin d'enfants, je te déteste. Ou, non, maintenant je t'aime. Maintenant, on a échangé des bonbons, c'est pas mieux maintenant. Non, c'était une haine vraiment. C'est une totale hypocrisie, quoi. C'est-à-dire, c'est le type, il dit des choses impressionnantes. Mais c'est vrai qu'on peut. Si on considère que les gens du deuxième Beth Amikdash étaient des gens qui étaient très grands, on ne voit pas très bien, si on ne dit pas comme le Nessie, de quelle haine gratuite il s'agit. Si on considère que qu'ils étaient très grands. Ça, c'est les choses, on dit de Reprem de Vologine, qui a dit sur son maître, le Gaon de Vilna, que si le Gaon avait vécu au temps du Bet Amigdash, il aurait été un balabait, un simple balabait. Il n'a pas été quelqu'un d'exceptionnel. Nous, on n'arrive même pas à comprendre quoi que ce soit du Gaon. Comment quelqu'un a pu faire ce qu'il a fait? On n'arrive pas à comprendre. Et son élève, qui est pas, on ne peut pas le soupçonner de dire du mal de son maître, il dit, mais s'il avait vécu à cette époque. Je vous dis franchement, moi, je n'ai jamais compris ça. Cette grandeur dont on dit qu'elle était le fait de ces gens-là, je ne vois pas. On dit qu'ils étaient très grands, mais je n'ai pas vu où ils étaient tellement grands. Tous les maîtres disent qu'ils étaient très grands. Bon, je me rallie à tout ce qu'ils disent, mais je ne le sais pas, je ne vois pas où, comment.
La génération qui était grande. À chaque fois, c'est la génération, donc on ne relève pas en quoi il était grand, mais c'est parce que c'était.
Vous voyez que la génération était grande, je suis d'accord, on dit comme ça, mais.
Il y avait la présence divine.
Pardon ?
Parce qu'il y a eu quand même la présence divine avant qu'elle ne parte. Il y avait la présence divine.
Oui, mais ça ne les a pas empêchés de. Donc, où ils étaient tellement grands, je ne sais pas, c'est difficile. Comment on peut être tellement grand à avoir cette Sinat Rinam? Alors, avant d'arriver à la Sinat Rinam, peut-être. Enfin bon, le processus était là, je ne sais pas. À partir de quand c'était.
C'est comme aussi ceux qui étaient au premier temple, qui ont fait les trois fautes, comment ils pouvaient avoir fait ces trois fautes et avoir un.
Bon, mais ça, si vous voulez, ça on peut comprendre. Chacun peut avoir faire des fautes. Mais on voit très bien que, avec ces trois fautes majeures, le galout était annoncé et qu'on savait qu'il allait durer 70 ans. Et il n'a duré que 70 ans. Hazal disent, ceux-là, leur faute était publique, en quelque sorte, connue. Alors, l'exil, la durée de l'exil a été connue. Le deuxième Sinat Rinam, on ne voyait rien. C'était une Sinat Rinam telle que le décrit le Netziv. C'était des super pieux, tout ce que tu veux. Mais c'était. Il n'avait que la bouche pleine de. Shem Shamaim, etc., Kabbalah Torah, ce que tu veux. Et alors, comme c'était pas. On ne voyait pas sous le bout de leur nez que c'était des. Etc., alors, l'exil non plus, on ne connaît pas. On ne connaît pas la durée. À part le fait que ça dure beaucoup plus longtemps. Et comme Chazal disent, si ça dure si longtemps, c'est que nous, on n'a pas réglé le problème. Donc mon cher Abbé nous dit, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Et donc, je vous ai dit, c'est sur l'ordre d'Hachem bien sûr, vous allez déléguer dans chaque tribu, vous allez en prendre quelques-uns, et c'est eux qui vont vous diriger. Et vous avez été d'accord. Vous avez dit d'accord. Ça, c'est tel que Rashi l'entend ici, c'est une erreur. Rashi dit que vous auriez dû dire, quand je vous ai dit ça, vous auriez dû dire, Rabbeinu Moshe, mimi na'el ilmod mimcha, o mitalmilcha, lo mimcha, shenitzta'arta alea, ela yadati marshvotechem. הייתם אומרים עכשיו בנו עלינו דיינים הרבה אם אין מכירנו אנו מביאים לו דורון והוא נושא לנו פנים. Vous avez pensé on va avoir beaucoup plus de dayanim et donc on arrivera à les corrompre, ils ne nous connaîtront pas vraiment bien. Et on arrivera, on va leur apporter les cadeaux, et voilà. Donc, en fait, c'est un reproche que Moshe Rabbeinu leur fait ici, c'est une remontrance. Je vous ai dit que je ne pouvais pas, etc. Je vous ai dit, choisissez des gens, etc. Vous n'auriez pas dû accepter. Vous auriez dû dire, non, on veut que ce soit toi qui nous juge, toi ou tes élèves directement, mais que toi tu aies la haute main là-dessus. Et pas d'autres gens, des tribus, etc. Bon, ceux-là, ils sont corruptibles, en fait. Tout de suite, c'est ce que Rashi dit. Donc, voilà, j'ai pris vos chefs, et des gens sages, et je les ai installés, effectivement, pour vous diriger. Des gens responsables de milliers de gens, des gens responsables de centaines de personnes, des gens responsables de 50, de dizaines, et effectivement aussi des agents pour mettre en œuvre ce qui a été décidé par les juges. Et j'ai donné des directives à vos juges. Je leur ai dit, Shvatem Tzedek. Vous jugerez selon le Tzedek. Lotakiru Panim Bamishpat. Il n'y aura pas de passe-droit. Vous jugerez le Katan ou le Gadol. Vous écouterez ce qu'ils disent. Et vous n'aurez peur de personne. Parce que le Mishpat appartient à Elohim, et par conséquent, il faut que ça soit selon en toute rigueur. Et si quelque chose était difficile, vous pourrez me l'amener, et moi j'écouterai et je jugerai. Et on est parti du Khorev, et on est allé dans tout le grand Midbar, etc. Passé par le pays de Hémoréen, etc., comme Hachem l'avait ordonné. Voilà. N'ayez pas peur, etc., Hachem va vous guider. Et puis, il commence le récit du problème de l'explorateur. L'explorateur, c'est ce qui a fait que bon, on n'est pas entré en Eretz Israël quand on aurait dû entrer. C'est-à-dire on est entré 40 ans plus tard. Et donc, en Eretz Israël, on a pratiqué l'idolâtrie 40 ans de plus. Et quand les Israélites sont arrivés, il y avait une idolâtrie qui était vraiment bien enracinée, qui avait 40 ans de plus d'existence, de pratique, etc. Et du coup, on a dû faire la guerre, etc. Tout a changé à cause des explorateurs. Mais le fait que les explorateurs aient entraîné, que l'histoire des explorateurs a entraîné la mort de toute la génération qui était sortie d'Égypte, des hommes de cette génération-là, ce n'est pas directement à cause des explorateurs. C'est parce qu'Hachem avait déjà dit au Cheta Egel, Hachem a dit qu'il allait détruire le clan d'Israël. Et Moshe Rabbeinu a négocié, mais il n'a obtenu, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'a obtenu qu'un sursis. Et le sursis est tombé avec les explorateurs. Donc à ce moment-là, on a appliqué la peine de mort du clan qui était due à cause du Hegel, et pas à cause des explorateurs. Mais les explorateurs, c'est très grave ce qu'ils ont fait, ils ont fait tomber le sursis, quoi, finalement. Ça veut dire que ça, c'était négociable. Après, négocier quand on a fait tomber le sursis, c'était plus possible probablement pour Moshe Rabbeinu. Il y a un tournant parce qu'à ce moment-là, les Bnei Israël n'ont plus autant confiance en Moshe parce que voilà, il négocie pas. Il n'a pas négocié. Il pouvait pas négocier. Mais eux, ils ont rien compris. Ils pensaient que Moshe Rabbeinu peut toujours négocier. On ne peut pas négocier quand on a fait tomber le sursis. En tout cas, Moshe Rabbeinu a pensé qu'il pouvait pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Mercredi. Bon, alors dimanche, il n'y a pas.